Morning Edition from NPR News.
Nancy, he's an evil house.
Hey, I'm ready
to get in the radio.
France Inter, le 18-20.
Un jour dans le monde, c'est jusqu'à 19h au sommaire. Dans quelques instants avec nous, Jean-Pierre Filliu qui publie « Au seuil, Algérie, la nouvelle indépendance », livre pour comprendre tous les aspects de la révolte en Algérie. Les bruits du monde, la Suède, comment supporter les longues nuits d'hiver. Reportage à Stockholm, Frédéric Faux et sous les radars de l'actualité, Claire Chaudière. Elle nous parlera des trains de nuit en Autriche, d'une page sombre de l'histoire américaine et puis du licenciement inquiétant d'une journaliste russe. Le monde, selon Trump, Grégory Phillips à Washington, les vacances du chef de la Maison-Blanche en Floride, dans sa propriété, 130 pièces, 10 000 mètres carrés. Vers 18h55, le monde à l'envers, Claude Guibal, toute cette semaine, les crises qu'on croyait réglées et qui ne le sont pas. Ce soir, la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Jean-Pierre Filliu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po Paris, auteur de nombreux livres sur le monde arabe et le Moyen-Orient. Vous publiez au Seuil, Algérie, la nouvelle indépendance. Vous interprétez, vous analysez ce mouvement de fond, cette révolte en Algérie depuis février 2019. L'Algérie a obtenu son indépendance en 1962. Aujourd'hui, elle veut une autre indépendance. Vous êtes allé sur place au début de l'été. Vous avez entendu là-bas, vous le dites, des espérances, des interrogations, des inquiétudes. On reviendra avec vous sur les derniers événements en Algérie, la mort du chef d'état-major des armées, l'élection de ce nouveau président. Mais d'abord, ces témoignages, cette ambiance, ces informations que vous avez recueillies et que vous rapportez dans ce livre. Et vous notez que c'est une révolte populaire actuellement en Algérie. Les Algériens n'ont plus peur.
Ils n'ont plus peur et ils se réapproprient en même temps leur destin et leur histoire. Ce qui est fascinant pour l'historien que je suis, ils ont une conscience très claire que ce qui se joue, c'est en fait la revanche de l'été 1962 où l'indépendance de la France avait immédiatement été confisquée par ce qu'on appelait à l'époque l'armée des frontières qui, dirigée par Boumédienne, avait fait mouvement à partir du Maroc et de la Tunisie et écrasé la résistance intérieure. Et ils revisitent cette histoire et encore vendredi dernier, ils mettaient en avant la figure d'Aban Ramdan, un dirigeant historique du Front de Libération Nationale, le FLN, qui avait été assassiné en 1957, justement par l'armée des frontières, parce qu'il voulait la primauté du politique sur le militaire. Et aujourd'hui, ils disent « état civil » et non plus militaire. Et c'est cela qui les anime depuis désormais 45 vendredis d'affilée, sans aucun incident, avec des millions de femmes et d'hommes dans les rues.
Alors justement, vous l'avez constaté, cette population qui proteste, qui veut retrouver une nouvelle indépendance, tous ces manifestants, ils ont choisi la non-violence. Est-ce que c'est la clé, un élément essentiel de cette révolte?
C'est l'élément fondamental et c'est littéralement révolutionnaire. C'est une rupture avec des cycles tragiques de violence en Algérie, soit les luttes de pouvoir au sommet qui se sont souvent soldées par des coups d'État, soit l'épouvante de la décennie noire pendant les années 90. Et non seulement l'épouvantail de cette violence ne fonctionne plus, mais la non-violence est devenue une discipline collective à laquelle les Algériennes et les Algériennes se tiennent pour désarmer littéralement un régime surarmé. C'est le premier budget militaire du continent africain.
Alors la jeunesse qui a grandi sous quatre quinquennats de Bouteflika, vous l'avez rencontrée. Que retenez-vous de ces rencontres avec des jeunes qui viennent de tous les milieux sociaux, des milieux pauvres, mais aussi des étudiants?
Alors effectivement, c'est très frappant de voir cette communauté de générations, quelles que soient les différences sociales, qu'il ne faut pas passer sous silence. Mais ils ont tous, pour eux, le fait d'avoir grandi après la décennie noire et sous un président qui, à la fin, était moribond, pour ne pas dire mort-né. Et ils veulent vivre et reprendre en main leur destin, leur vie. Et ils savent que le système dans lequel ils ont grandi ne leur permettra pas. Ils savent aussi, et c'est fascinant, qu'il faut qu'ils revisitent leur propre histoire, et on les voit plonger dans l'histoire de l'Algérie, se réapproprier les figures de ce qu'ils appellent les vrais héros de la guerre de libération. Et par exemple, ils ont pour étendard Lardar Bourrega, 86 ans, un ancien moudjahid, donc un ancien résistant anticolonial, qui est aujourd'hui incarcéré parce qu'il a défié le régime militaire.
Après ces rencontres que vous avez réalisées en Algérie, vous avez le sentiment que ces jeunes, ils veulent partir, devenir des haragas, n'est-ce pas, ces émigrés clandestins, ou alors cette révolte les pousse plutôt à rester, à vouloir rester sur place pour faire leur vie dans leur pays ?
Complètement, et c'est ça le grand tournant aussi, la rupture. Ils sont fiers d'être algériens, ils ont désormais la perspective, l'espérance de pouvoir mener une vie digne, de pouvoir réaliser leur aspiration au pays. Et on a vu d'ailleurs que le début de la contestation, il y a près d'un an, a coïncidé avec une chute de l'immigration illégale algérienne. Il y a toujours une immigration illégale d'Afrique subsaharienne, et donc c'est cette volonté de, je le dis encore, reprendre en main leur destin dans leur pays et de ne plus le fuir pour aller construire une vie digne ailleurs.
Alors, dans ce livre, Algérie, la nouvelle indépendance, Jean-Pierre Filliu, il y a un chapitre consacré à la caste militaire qui dirige ce pays et qui vit d'une rente, les hydrocarbures, richesse du pays. Et là, on peut parler d'une sorte d'un véritable cambriolage ininterrompu, organisé par ces fameux décideurs. Comment se répartit cette rente entre les hauts gradés qui dirigent, qui tiennent ce pays ?
Là, par définition, c'est très opaque. Et ils font tout pour qu'on ne puisse pas connaître exactement ces circuits de redistribution. Mais on a vu aussi qu'ils ont essayé de profiter de la contestation populaire pour régler des comptes, en fait, entre eux, et pour éliminer les clans qui étaient liés au président déchu Bouteflika, contraint à la démission en avril dernier. Il y a eu des condamnations retentissantes, hein, deux anciens premiers ministres à 12 et 15 ans de prison, le frère de Bouteflika, lui aussi. Mais la population algérienne ne veut pas se contenter de cela, que les uns remplacent les autres, ce qu'on appelle l'alternance clanique. Elle veut enfin pouvoir profiter des ressources nationales. Je vais vous donner juste un exemple. En 2011, après la chute de Ben Ali et de Moubarak, le régime algérien a très peur d'une extension de la contestation dans son pays. Il dépense, il dilapide une trentaine de milliards d'euros en quelques semaines pour acheter la paix sociale. Ça veut dire que l'argent, il est là, mais que l'argent, il doit enfin servir au bien public.
Vous notez dans cet ouvrage, dans ce livre, que cette révolte, le Hirak, c'est aussi une révolte féministe.
En tout cas féminine. La part des femmes est fondamentale. Le troisième vendredi de manifestation est tombé le 8 mars, Journée internationale de la femme, qui était une célébration tout à fait compassée dans le régime jusqu'alors. Et c'est devenu une vraie célébration populaire. On a vu descendre les grands-mères, les mères, les filles, les petites-filles, donc non seulement les femmes, mais des générations de femmes. Et cet engagement dans la rue des femmes voilées, dévoilées, il est aussi une garantie de la non-violence, du fait que toutes ces tendances un peu machistes qui jusque-là avaient marqué la vie algérienne, eh bien elles doivent céder la place à une nouvelle citoyenneté où la féminité, effectivement, doit être prise totalement en compte. Il faut rappeler que l'Algérie, malgré ses prétentions socialistes ou laïques, a le code de la famille le plus rétrograde du monde arabe en dehors des pays du Golfe.
Le dégagisme est très important actuellement en Algérie. Il vise aussi les islamistes qui sont là, qui observent ce qui se passe.
Jusqu'à présent, on a 45 vendredis dans des dizaines de villes du pays. Il n'y a jamais eu un cas où les islamistes ont pu récupérer un seul cortège. Chaque fois qu'ils ont voulu faire des prières collectives, ils ont été littéralement encerclés par un cordon sanitaire des contestataires. Ils n'ont pas pu justement détourner les manifestations à leur profit. Donc c'est sûr, ils sont en embuscade, mais pour l'instant, leur principal allié, eh bien, c'est le régime qui a envie d'agiter cet épouvantail pour justement épuiser la contestation, mais je suis convaincu qu'il n'y parviendra pas.
Vous parlez dans ce livre des jugements anti-français, ils sont assez virulents là-bas en Algérie. Les manifestants dans les rues accusent Emmanuel Macron d'être trop accommodant avec le régime, et puis il y a là une sorte de rengaine du pouvoir militaire en place qui évoque la main étrangère, évidemment française, elle voudrait diviser l'Algérie, c'est un discours que vous avez entendu très souvent.
Alors, très souvent, de toute façon, c'est le disque rayé du pouvoir en place depuis déjà des décennies. Ils n'ont plus que ça à dire. Et c'est pour cela aussi qu'ils s'épuisent, parce que cela ne convainc plus personne. On voit bien que la France n'a que des visées aimables à l'égard de l'Algérie. Personne ne croit qu'elle voudrait la déstabiliser. En revanche, du côté des manifestants, un silence trop assourdissant laisse croire qu'il y a une forme de complicité avec le régime en place. Ce qui est plus troublant, c'est qu'en France, les intellectuels, le monde culturel, voire la classe politique, s'expriment très peu sur ce mouvement tout à fait extraordinaire, non violent, qui nous apprend beaucoup sur comment faire de la politique, justement de manière pacifique et déterminé.
Jean-Pierre Filliu, la caste militaire domine ce pays, l'Algérie, depuis plus d'un demi-siècle. Celui qui la dirigeait, cette caste, après l'éviction de Bouteflika, c'est le général Gaït Salah. Il est mort la semaine dernière. Selon vous, qu'est-ce que cela change ?
D'abord, c'est un symbole incroyable. Ça veut dire que le système est tellement en bout de course qu'il connaît une forme de conclusion biologique. On a son représentant principal qui meurt de mort naturelle et qui ne pourra pas voir cette année 2020 où les Algériennes et les Algériens espèrent enfin accéder à cette indépendance post-dictatoriale après l'indépendance post-coloniale de 1962. Donc aujourd'hui, le chef d'état-major est le premier de l'histoire de l'Algérie qui n'a pas participé à la lutte de libération anti-française. Donc on a enfin tourné la page et on peut enfin non plus regarder dans le rétroviseur, mais regarder vers l'avenir de l'Algérie.
Mais ce nouveau chef d'état-major, aujourd'hui même, il s'appelle Saïd Chengriba. Il a déclaré que l'Algérie avait face en 2019 à un dangereux complot contre ces institutions. Là encore, c'est un vieux discours.
Oui, oui, il continue, bien sûr. On peut pas imaginer que du jour au lendemain, ils peuvent justement changer ce disque rayé. Hein, et il demande que les futurs dirigeants du pays, parmi les critères de décision, aient le dévouement pour l'armée et la patrie. Mais je crois que ils ont épuisé leur arsenal de dissuasion du peuple algérien, qui continue encore et encore, avant la mort de Gaït Salah, après la mort de Gaït Salah, à descendre dans la rue de manière disciplinée et déterminée.
Alors il y a eu une mascarade électorale, un président élu le 12 de ce mois avec une très faible participation, un homme qui a fait toute sa carrière à l'ombre de la caste militaire, il s'appelle Abdelmadjid Tebboune, il a 74 ans, c'est un apparatchik et serviteur zélé du régime Bouteflika que combattent les manifestants. Il a nommé hier un Premier ministre, un universitaire, un technocrate, Abdelaziz Djerad. On a demandé une nouvelle soupe, ils ont juste changé la cuillère. C'est ce que disait hier un manifestant, témoignage recueilli par l'agence France Presse. C'est bien vu ?
En effet, il y a un rejet général. Il faut savoir, les chiffres officiels de participation sont de 40%, ce qui est déjà inquiétant, mais la réalité est sans doute en dessous de 10%. Mais au-delà de ce désaveu majeur, cinglant, que la population algérienne a infligé au système, on a désormais une nouvelle donne. Apparemment, le président, son nouveau Premier ministre, ont beaucoup de mal à trouver les membres du futur du gouvernement, parce que tout le monde a compris qu'ils n'étaient jamais que des dirigeants de transition. Il faudrait que cette transition, elle se passe le plus vite, de la manière la plus ordonnée. Et là-dessus, les Algériennes et les Algériens ont des propositions très constructives à faire, si enfin on les écoute.
Mais Jean-Pierre Filliu, vous imaginez qu'à la longue, il y aura un dénouement apaisé à cette crise en cours lorsque on lit la façon dont fonctionne cette caste militaire qui défend des intérêts économiques, qui utilise l'argent des hydrocarbures. Est-ce que les manifestants dans la rue réussiront à démolir ce système en place depuis plus d'un demi-siècle ?
Il y a véritablement une guerre d'usure. Mais le rapport de force, chaque vendredi, tourne du côté des manifestants. Et on voit bien qu'en fait, le système, par son aveuglement, a plongé l'Algérie, pays riche de multiples ressources, au-delà des hydrocarbures, dans un marasme économique tel que on ne peut que par une main tendue enfin à la population, donc au Hirak, à cette contestation, sortir de l'impasse
actuelle. Mais qui la représente ?
Eh bien, dès que le dialogue sera sincère, je suis convaincu qu'une direction collégiale émergera et pourra œuvrer à cette transition que tous les Algériens et les Algériennes appellent de leur vœu.
Jean-Pierre Filliu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions du Seuil, Algérie, la nouvelle indépendance. Merci.
Le 18-20, Pierre Veille, sur France Inter.
Et à suivre dans Un jour dans le monde, les bruits du monde, les longues nuits en Suède, ça attaque le moral et puis sous les radars de l'actualité, avec Claire Chaudière. Claire, au programme ?
Au programme, on va s'intéresser au grand retour des trains de nuit, des trains couchettes en Autriche. Slow tourisme, tourisme lent, écologie et économie aussi. Un pari risqué il y a 3 ans qui s'avère assez payant aujourd'hui pour la compagnie nationale de chemin de fer autrichienne.
Le lundi, le monde selon Trump, saison 3 avec Grégory Philips à Washington. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Pierre.
Donald Trump cette semaine en vacances en Floride.
Oui, Mar-a-Lago, sa résidence d'hiver, il fait 25 degrés, un ciel nuageux, mais ça n'empêche pas le président de golfer ce matin.
Et puis Claude Guibal, vers 18h55, le monde à l'envers. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Avec vous cette semaine, les crises que l'on croyait réglées, et ce soir, premier épisode.
Eh bien écoutez, on va aller là où les insultes volent bas, et puis aussi loin que les essais balistiques. On va aller faire un tour dans la crise qui oppose les États-Unis et la Corée du Nord, et on va voir que les choses vont pas très très bien en fait, Pierre.
À tout à l'heure, Claude. On va écouter de la musique. Maintenant, une figure phare du rap américain. Il s'appelle YBN Cordae. Il sera à Paris, à la Bellevilloise, le 18 mars 2020. Il y aura plein de concerts intéressants, hein, en 2020. N'oubliez pas Paul McCartney, le 26 mai, à Nanterre. J'ai mes billets. Il sera aussi le 31 mai à Bordeaux, le 7 juin à Lyon et le 23 mai à Villeneuve-d'Ascq. Mais là, c'est hors sujet. On ne parle pas de Paul McCartney. On va écouter YBN Cordae.
All niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fuckin' with me. I got 2 bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
Okay, put your fucking hands up. This the fucking anthem. Smiling cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy. Ass on a healthy young millionaire. What the fuck can you tell me? Smell me, nigga. That Chanel cologne. I'm in Europe with the tourists with no cellular phone.
Like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms. In the randomness of risky menages. Like, get the head right, she can get what she want. If it spits, then flaunt it. My drip like a faucet. She told me she was pregnant. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet.
The opposite. She want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on a runway. Dripping in my feng shui, sipping on a Sunday.
One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got 2 bad bitches gonna be rubbing my feet. I got 3 young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing to me.
I bought a Montclair coat for the times where it broke.
I'ma wear it in the summer on LeBron James boat.
Front row,
duh, bro.
We don't sit on those bleeds.
Ain't your pockets obese?
They won't fit in those seats.
Ain't we like a co-team?
Nigga, Shaq and Kobe.
Like back in 03.
I was only like 6.
I was like 16.
But I can give a 16.
I can make a bitch scream.
That's a bit extreme.
I got a thick ball, bitch. I call her Miss Clean. My drip frosty like Halls and Listerine. And we all stars. You hardly 6 streams.
Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams.
Swear to
yeah, me too. No Harvey Weinstein, the coupe was lime green, my wrist was blinding.
We party in South Beach, Ferraris and blue cheese.
Fuck does that even
nigga,
mean?
Just let the hook sing.
None of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't got nothing
to do. Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat. And all y'all ain't.
Il est 18h37, les bruits du monde. C'est l'hiver, il fait nuit là en ce moment chez nous en France. Mais imaginez des régions du monde beaucoup plus au nord où on ne voit quasiment pas le soleil pendant des mois. Exemple, la Suède et sa capitale Stockholm. En ce moment là-bas, il n'y a que 6 heures de lumière par jour. Alors beaucoup d'habitants s'adaptent, rivalisent d'idées pour supporter les longues périodes d'obscurité. Mais pour d'autres, c'est vraiment une période difficile. Reportage à Stockholm, Frédéric Faux.
Tous les hivers, quand les nuits s'allongent, je commence à me sentir déprimée. Je me sens très très fatiguée, comme si toute mon énergie avait quitté mon corps. Je n'ai aucune force, en fait je ne peux rien faire.
Liv, 23 ans, est victime chaque hiver de dépression saisonnière, le Seasonal Affective Disorder, ou SAD, une pathologie liée au manque de lumière et qui toucherait 5% des habitants dans les pays nordiques. Une des façons de la traiter est de soumettre les patients à une lumière intense qui limite celle du soleil. Anna Lena est le médecin de Liv.
Les personnes qui sont atteintes de dépression saisonnière ont des problèmes de concentration. Elles dorment beaucoup et elles grossissent pendant l'hiver. Tout ça disparaît au printemps. Certains patients ont besoin de médicaments et d'une thérapie par la lumière. Mais il y a toujours un débat pour savoir si cette lumière est vraiment efficace.
Le SAD est un cas extrême, mais plus largement, le déficit de lumière est un fait avec lequel les peuples nordiques ont toujours dû composer et qui a modelé la société. Maria Maxen est ethnologue au Musée nordique de Stockholm.
Pendant l'hiver, ici à Stockholm, on a 6 heures de lumière par jour. En été, c'est 20 heures. C'est un fait incontournable et c'est la condition principale qui régit la vie dans les pays nordiques. Même avec l'arrivée de l'électricité, les gens ont gardé l'habitude de rester dans une semi-obscurité. Dans les restaurants ou si vous allez chez les gens, vous êtes dans la pénombre. Il y a un feu de cheminée, des bougies allumées. On a vécu comme ça pendant des milliers d'années. C'est pour ça qu'on continue à penser que c'est bien.
Cette période la plus obscure est aussi celle où l'espoir du retour de la lumière est le plus fort. La manifestation la plus connue de cette volonté collective est la fête de Sainte-Lucie, le 13 décembre, pendant laquelle des jeunes filles portant des bougies sur la tête partent en procession. Mais ce n'est pas la seule. Dans le quartier de Hagaparken, par exemple, les habitants organisent aussi une fête éclairée par des brasiers et des torches.
On a allumé ces feux et tous ces gens, vous voyez, ils sont des milliers. Ils apprécient vraiment qu'on fasse quelque chose pour conjurer cette obscurité.
À chacun sa technique pour vaincre les ténèbres. Pour beaucoup, il s'agit de vivre comme s'il faisait jour. Ainsi, dans les parcs, il n'est pas rare de voir des groupes courir et s'entraîner en pleine nuit. Comme celui animé par Magnus, dont le parcours de crossfit se termine au bord de l'eau.
Donc on court entre les stations et après tu fais des pompes, des sit-ups, de la planche et tout. Ouais. Bon, disons là, on est dans la période, j'ai envie de dire, le plus difficile. C'est mouillé, mais tu mets tes gants et après, comme tu dis, il fait nuit, mais tu mets la lampe frontale et puis... Et moi, je pense sauter. J'aime pas l'escalier.
Ça fait du bien. Oh Magnus.
À la maison, la bonne stratégie est de multiplier les sources de lumière, mais sans éblouir, comme chez Henry.
Là, nous avons des spots pour voir où on accroche son manteau, des bougies dans les toilettes aussi. Dans la cuisine, il faut de la lumière sur le plan de travail, mais c'est de la lumière tamisée, de petites sources de lumière un peu partout. On a aussi des bougies devant les miroirs pour avoir plusieurs bougies à partir d'une seule. C'est cosy.
Pour les réfractaires, ceux qui ne supportent pas l'interminable hiver, il reste deux solutions. La première, c'est de partir au soleil. La Suède fait partie des pays où les habitants prennent le plus l'avion, surtout vers la Thaïlande ou les Canaries.
Vem du än är och vart du än vill åka, har vi en resa för dig. Boka din drömsemester på tui.se.
Deuxième solution, faire semblant de partir au soleil. Nous sommes à Södertälje, au sud de Stockholm, devant d'anciens entrepôts dans lesquels travaille Jacob.
Very cold, very dark.
Il fait froid, il fait nuit. On va voir comment c'est à l'intérieur, je pense que c'est plus chaud.
Much better.
Et à l'intérieur, dès que la porte se ferme, on débarque dans un décor de paillotes tropicales, avec des Suédois méconnaissables sans leur doudoune, en train de transpirer sur 8 terrains de beach volley.
Il fait 23-24 degrés, il y a du sable, des palmiers, des gens heureux, et beaucoup de beach volley. Aujourd'hui, ça s'est transformé en un lieu où l'on peut échapper à l'hiver, et on est complet presque tous les jours.
On voit les gens qui jouent en short, certains torse nu.
Quand vous venez ici, vous avez l'impression d'être à la plage en Thaïlande.
Also, there's a bar, so you can drink.
Il y a aussi un bar où on peut boire de la bière, les pieds dans le sable. J'adore ça.
So I love it.
Les habitants de Stockholm prendront leur revanche le 21 juin, quand le soleil, descendant à peine en dessous de l'horizon, leur offrira la nuit la plus courte de l'année.
Les bruits du monde, reportage à Stockholm, Frédéric Faux. Et les bruits du monde sous les radars de l'actualité. Claire Chaudière, Claire, d'abord, direction l'Autriche, à bord d'un train de nuit.
Oui, départ Cologne Hauptbahnhof, gare principale, 21h, direction Vienne, arrivé au petit matin. Ça fait 3 ans maintenant que l'Autriche réveille ses trains de nuit. La compagnie ferroviaire nationale autrichienne dépasse désormais le seuil de rentabilité de ses rames, ce qui n'était pas gagné. La société publique a même présenté hier le design intérieur de 13 nouveaux trains de nuit commandés à l'allemand Siemens. Lorsqu'en 2016, Berlin a décidé de ranger au garage ses derniers vieux trains de nuit déficitaires, Vienne les lui a rachetés pour 40 millions d'euros. La Belgique, elle, avait revendu ses quelques trains couchettes à mauvaise réputation dès 2003. Et voilà ce qu'en disaient à l'époque nos confrères de la RTBF.
Les trains de nuit chez nous appartiennent depuis hier soir au passé, à l'histoire. Le dernier train couchette de la compagnie Wagonlit a pris le chemin de la Suisse. À son bord, bien sûr, des voyageurs, mais aussi de nombreux membres du personnel de la compagnie qui tenaient à être présents pour l'événement.
Mais les trains de nuit n'avaient donc pas dit leur dernier mot. Grignotés petit à petit pendant des années par les avions low cost et le TGV, ils retrouvent aujourd'hui une nouvelle jeunesse avec la nécessité de moins polluer. Les experts ont fait les calculs, ils sont affirmatifs, et de voyager moins cher. Le slow tourisme attire même bien au-delà de l'Autriche. En témoigne ce long reportage du New York Times publié ces jours-ci et qui a testé pour nous le Vienne-Venise by night. Ces paysages qui passent tout doucement et toutes ces rencontres, de quoi inspirer en tout cas d'autres pays, puisque le Royaume-Uni s'y met également, ainsi que la Suède où les trains de nuit font aussi leur retour.
Il y a plus de 150 ans, Claire, des Indiens d'Amérique étaient tués par le gouvernement américain.
Oui, dans ce qui constituera l'une des plus importantes exécutions de masse de l'histoire du pays, commémoration ces jours-ci de la tuerie de Mankato du 26 décembre 1862. C'est la guerre des Dakota ou guerre des Sioux, des mois de bataille entre Indiens d'Amérique et colons qui aboutissent à l'internement d'un millier de prisonniers dans des camps du Minnesota. L'historienne Sioux Ladona Brave nous raconte. Nous étions les mauvais Indiens qu'ils ont tués. Ils ont pris les chefs, les ont escortés jusqu'à la rivière, mis sur des bateaux et enfermés dans ces camps. Ma grand-mère y était, dit-elle. Les recherches montrent qu'il s'est passé des choses horribles là-bas. Mais ils ont relâché la plupart. 38 prisonniers seront pendus ce jour-là. En 1963, le Congrès des États-Unis met fin à l'existence de ces réserves Sioux.
Et direction la Russie claire, où une jeune journaliste russe vient d'être mise à la porte de son journal après avoir posé une question à Vladimir Poutine.
Et elle s'appelle Alissa Yurovskaya et était envoyée à la conférence de presse annuelle de fin d'année du Kremlin par un site internet de sa région, la péninsule de Yamal, péninsule de l'extrême à 600 km seulement du cercle arctique, domaine des éleveurs de rennes et désormais de l'exploitation gazière qui a complètement transformé la région et qui doit se poursuivre grâce à des nouvelles infrastructures en projet. La jeune journaliste veut justement en parler de ces infrastructures et pour cela, elle attrape à la volée le micro tendu à sa voisine. Dans l'extrait que vous entendez, elle parle donc de ces infrastructures nouvelles attendues qui doivent à terme permettre, dit-elle, plus d'expéditions en mer. Mais ces derniers temps, beaucoup s'inquiètent du fait que cela ne va pas assez vite, explique-t-elle. Voilà, on entend Vladimir Poutine qui hausse les sourcils, il botte en touche en expliquant que le projet avance, mais qu'on ne peut pas le sortir de son contexte. Alors, quel contexte? Eh bien, de contexte de défiance grandissante des organisations de défense de l'environnement pour qui la Russie profite allègrement du réchauffement climatique pour assouvir ses appétits gaziers. La question formulée ainsi n'avait pourtant pas de quoi froisser outre mesure le Kremlin, me direz-vous, Pierre. Alors pourquoi est-ce que cette jeune journaliste a-t-elle été licenciée après son intervention? Eh bien, peut-être parce qu'elle s'est répandue sur les réseaux sociaux à la sortie de l'événement pour donner son avis sur les rumeurs de chirurgie esthétique qui court sur le président russe. Question probablement tout aussi sensible, suggère un de ses confrères du Moscow Times qui a mené l'enquête autour de son récent licenciement.
Claire Chaudière, merci et rendez-vous demain dans Un jour dans le monde. Le groupe d'Anvers Desmona, c'était en 2010. Carry on. Et le début des années 2010, Desmona avec Carry On, 18h51.
France Inter, un jour dans le monde. That information that was false and fake.
Et comme chaque lundi dans Un jour dans le monde, Trump, saison 3, avec Grégory Phillips en direct de Washington. Grégory, 2020 sera évidemment marqué par l'élection présidentielle du 3 novembre. Donald Trump, candidat à un deuxième mandat, bien sûr, et toujours une quinzaine de candidats à l'investiture démocrate. Peut-être, Grégory, un mot rapide sur le calendrier. Les choses vont se décanter rapidement maintenant ?
Oui, très vite maintenant, regardez, 3 février, dans un peu plus d'un mois, caucus de l'Iowa, 10 jours plus tard, le 13, primaire démocrate du New Hampshire, et 3 mars, Super Tuesday, avec les délégués notamment de Californie. Ça veut dire, Pierre, que dans quoi ? Allez, un peu plus de 2 mois, on devrait avoir normalement une idée du nom de celle ou celui qui affrontera Donald Trump. Tout ça pour mener à la convention démocrate qui aura lieu mi-juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin, avec investiture du candidat ou de la candidate, et puis 3 novembre 2020, vous l'avez dit, élection présidentielle, mais aussi, on l'oublie parfois, renouvellement de la totalité de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat américain. Et ça, c'est dans un peu plus de 300 jours maintenant, 309 exactement.
Grégory Phillips, dans cette course à la Maison Blanche, il y a bien sûr un point très important, c'est l'argent. Où en est-on ?
Alors, les candidats ont jusqu'à demain soir pour boucler leur 4e trimestre de collecte de fonds. Pour l'instant, côté démocrate, le champion, c'est Bernie Sanders. Vous savez, le sénateur du Vermont, au 4e trimestre, il devrait s'approcher des 26 millions de dollars récoltés. C'est mieux qu'Elizabeth Warren, c'est mieux que l'ancien vice-président Joe Biden. Et puis, vous savez, il y a aussi les candidats qui comptent sur leur fortune personnelle. Par exemple, Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York. Vous savez combien il a dépensé rien que ce mois-ci en publicité télé et internet, 100 millions de dollars pour des spots comme celui-ci.
We need a president for all of us.
All of us.
All of us.
We need a candidate who has the strength to rival and defeat Trump.
Et au total, on estime que Bloomberg va acheter entre 300 et 400 millions de dollars de publicité avant le Super Tuesday du 3 mars. C'est absolument énorme. On le sait, l'argent ne fait pas tout parce que pour l'instant, dans la course à l'investiture démocrate, dans les sondages, le milliardaire est à moins de 5% des intentions de vote. Notez qu'il a choisi de ne pas faire campagne dans ce qu'on appelle les early states, l'Iowa et le New Hampshire qui se prononceront les premiers. Et puis côté républicain, la campagne Trump 2020 fait aussi la chasse au dollar et là, Trump est imbattable. Puisqu'au 1er octobre, il avait déjà récolté 308 millions de dollars. On s'achemine sans doute, Pierre, vers la présidentielle la plus chère de toute l'histoire des États-Unis.
Mais j'ai bien fait mes comptes, hein. Michael Bloomberg est beaucoup plus riche que Donald Trump. Et pourtant, on imagine que Trump est un milliardaire sans limite. Eh bien, Bloomberg est encore plus fort que lui. Grégory, Donald Trump, justement, que fait-il cette semaine ?
Alors, on l'a dit tout à l'heure, vacances à Mar-a-Lago en Floride, golf ce matin, rien de très surprenant. On sait que vendredi, Trump participera à Miami à un rassemblement de chrétiens évangéliques. Et puis hier sur CBS, dans l'émission Face the Nation, on a demandé à sa fille Ivanka dans quel état d'esprit était son père de président après l'impeachment de la mi-décembre. Et voici sa réponse.
He's energized.
Ça lui donne de l'énergie. C'est le cas aussi pour les plus de 63 millions d'électeurs qui ont voté pour lui. Ce qui se passe est historique, comme vous le savez, mais avant tout parce que c'est le premier impeachment purement partisan.
Et donc, Grégory, peut-être en 2020, un procès en destitution au Sénat pour Donald Trump. Est-ce que ce scénario se confirme ?
Alors en ce moment, ce sont les vacances parlementaires. Les sénateurs reviennent au Congrès vendredi, donc pour l'instant, il peut rien se passer. Vous savez, Pierre, que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, n'a pas encore transmis au Sénat les deux chefs d'accusation qui visent Trump. Toute la question est de savoir, va-t-elle le faire et si oui, quand ? Avant les fêtes, on parlait d'un éventuel procès en destitution pour janvier, mais rien n'est très sûr parce que les démocrates peuvent aussi se contenter, si je puis dire, de l'impeachment, de la mise en accusation du président sans aller jusqu'au procès, dont de toute façon... On connaît l'issue, hein, ce serait un acquittement de Donald Trump par un Sénat majoritairement républicain.
Grégory Phillips en direct à Washington. Merci Grégory.
Pierre Veil, le 18-20.
Le monde à l'envers. Toute cette semaine dans Le monde à l'envers, on revient avec vous, Claude Guibal, sur ces crises qu'on croyait réglées ou presque et qui en fait sont loin de l'être. Ce soir, premier épisode, Claude, la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Absolument. Souvenez-vous, Pierre, à la même époque, en 2017, on n'en menait pas large. Le monde se recroquevillait pendant que les insultes volaient bas entre Washington et Pyongyang. Je vous en remets quelques-unes en tête. Kim Jong-un qui traite Donald Trump de vieux gâteux. Trump qui répond
réplique en disant « Qui va pas se laisser faire par un petit gros ? J'en passe et des meilleurs ». Une escalade verbale qui culmine avec ce tweet du président américain « Dites à Kim Jong-un que moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, mais le mien, il est plus gros, il est plus puissant et en plus... » Il marche.
Voilà, alors ambiance glaciale effectivement. Pourtant, Claude, quelques mois plus tard, c'est tout l'inverse.
Oui, alors qu'on s'attendait à une apocalypse nucléaire, disons, coup de théâtre, rencontre historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. C'était à Singapour en 2018. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Des sourires, des « Kim, c'est mon ami », des promesses de dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne et un cadre pour permettre d'avancer, pour permettre de sortir des provocations. Les États-Unis arrêtent l'essentiel de leur exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud et pendant ce temps, les Nord-Coréens suspendent leurs essais nucléaires et balistiques longue portée.
Tout cela, ça a quand même tenu. Cette crise, elle ne fait plus trembler comme avant.
Et pourtant, Pierre, elle est quand même assez loin d'être terminée parce que les choses se sont compliquées dès la deuxième rencontre. Kim-Trump, c'était début 2019 à Hanoï, une rencontre où en fait on est rentré dans le dur. Là, impossible de se mettre d'accord. Car, vu de Washington, le calendrier, il est très simple. La Corée du Nord doit dénucléariser et en retour, elle obtiendra la levée des sanctions internationales. Problème, c'est que vu de Pyongyang, c'est absolument l'inverse. On lève les sanctions, puis ensuite on dénucléarise. Et voilà comment, deux ans après cette grosse crise entre Corée du Nord et États-Unis, les tensions commencent à remonter et très sérieusement.
Mais alors Claude, on en est où exactement ?
Alors en fait, l'accord de base, celui de Singapour, il a été à peu près respecté. Les États-Unis ont quasiment cessé leurs exercices militaires conjoints avec Séoul. Les Nord-Coréens, eux, ont effectivement suspendu les essais balistiques longue portée, en fait ceux qui pourraient menacer à terme le territoire américain. Mais malgré les rencontres entre les équipes de négociation, on n'est pas allé plus loin à cause justement de ce fameux calendrier polémique. Résultat, de chaque côté, on s'impatiente. Du côté de Pyongyang, ce qui est urgent, c'est la levée des sanctions qui asphyxie complètement le pays. Et du côté de Washington, la priorité, c'est certes la dénucléarisation, mais aussi et surtout d'obtenir un accord et d'obtenir cet accord très vite parce que Donald Trump en a besoin d'ici l'élection de novembre prochain. Lui qui a bâti une partie de sa popularité sur sa promesse de réussir là où la diplomatie traditionnelle a toujours échoué. Et c'est sur cette logique de temps, en fait, ce temps qui passe, que Kim Jong-un, qui est plutôt assez malin, a donc repris la main. Kim Jong-un a donné un ultimatum aux États-Unis pour parvenir à un accord d'ici la fin de l'année.
Ah, cet accord, on l'a compris, dont Donald Trump a besoin à tout prix ou presque, eh bien Claude, la fin de l'année, c'est demain.
Ouais, en gros, il reste 48 heures, histoire de bien faire monter la pression. Pyongyang a procédé il y a deux semaines au lancement de ce qui pourrait être en fait un moteur de fusée, c'est-à-dire un tir longue portée. Et il a promis aussi un cadeau de Noël aux États-Unis si rien n'avançait. On annonce un grand discours de Kim Jong-un mercredi, un discours très attendu, et tous les experts de la région tirent la sonnette d'alarme. Car cette fois, si les provocations reprennent, que va-t-il se passer ? Un renforcement des sanctions, une escalade militaire, un tir de trop. Bref, tous le disent, il faut revoir les ambitions à la baisse, laisser du temps aux négociateurs, bref, laisser faire la diplomatie. Et ça, c'est pas vraiment le genre de beauté de Donald Trump ou de Kim Jong-un.
Claude Guibal, Le Monde à l'envers. À demain, Claude.